France Culture, il est 8h30, tout de suite la revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour à vous Thomas.
Bonjour Olivia.
Et ce matin, après l'euphorie, place au questionnement.
Oui, en Tunisie tout d'abord, où pour la première fois, une femme a été élue hier au poste de maire de la capitale. Et bien entendu, toute personne, un tant soit peu soucieuse de s'attaquer au fameux problème du plafond de verre, préoccupée par l'instauration d'une égalité entre les genres et attentive à la réussite de femmes à des postes de prestige, ne peuvent qu'être fiers ce matin de cette élection. Et pourtant, s'interroge une chroniqueuse du Huffington Post dans sa version en ligne pour les pays du Maghreb, faut-il rappeler qu'être femme n'est pas un gage de mérite, ni de compétence, ni une qualité en soi, assez du féminisme par fétichisme, car après tout, dit-elle, n'est-ce pas une autre forme de sexisme que de réduire ainsi la femme en tant que personnalité publique à son sexe? La même analyse est reprise ce matin par l'une de ses consoeurs du site d'information tunisien Business News. Dans une tribune intitulée « Souad Abderrahim n'est pas juste une femme ». Si son élection à la municipalité de Tunis est sans conteste un événement, il ne faudrait pas non plus avoir la mémoire trop courte. N'oublions pas, par exemple, ses déclarations hostiles à la cause de l'émancipation féminine, ses propos incendiaires et moralisateurs contre les enfants nés en dehors du cadre légal du mariage, ou bien encore contre les mères célibataires qu'elle avait qualifiées d'infamies pour la société tunisienne. Ou dit autrement, Souad Abderrahim saura-t-elle défendre les valeurs de ceux qui voient en son ascension un événement? Saura-t-elle porter le message des citoyens qui aspirent à la liberté et à une avancée de leurs droits? Il est évident que non, et la chroniqueuse toujours de préciser que ce soit bien clair. Souad Abderrahim ne doit pas ce poste à ses compétences, mais uniquement au fait qu'elle est la représentante du tout-puissant parti islamiste Ennahda, et donc l'un de ses pions. En ce sens, ce n'est pas tant Souad Abderrahim que l'on devrait saluer aujourd'hui pour son élection, que l'acharnement dont les islamistes ont su faire preuve pour arriver à leur fin en donnant d'eux l'image d'un parti moderne grâce à cette militante certes habillée à l'occidental et ne portant pas le voile, mais qui, en portant leur message et leurs objectifs, ne fera rien de plus que de servir leur cause. Dès lors, s'agit-il d'être content lorsqu'une femme, peu importe qui elle est, accède à un poste longtemps réservé aux hommes? Non, tranche la chroniqueuse. Il ne suffit pas d'être une femme, dit-elle. Il ne s'agit pas de remplacer des incompétents par des incompétentes, ni de défendre le diable lorsqu'il porte des habits de femme.
En Allemagne, à présent, Thomas Cluzel, 24 heures seulement après l'accord conclu à l'arraché entre la CDU et la CSU, il semble que la situation reste ce matin tout aussi explosive.
Le feu n'est visiblement toujours pas éteint. Le compromis sur la politique migratoire conclu lundi soir entre le parti de centre-droit et son allié conservateur bavarois suscite désormais le scepticisme des sociaux-démocrates. Et c'est ainsi, précise Der Tagesspiegel, qu'après 2h30 de réunion hier soir à la chancellerie, aucun accord n'a pu être conclu entre d'un côté l'alliance, donc CDU-CSU, et de l'autre, le SPD, le troisième partenaire de cette coalition gouvernementale. Dans un entretien au Rheinische Post, le secrétaire général du SPD se montre on ne peut plus clair. Notre détermination reste la même, dit-il. Nous ne voulons pas de camp fermé. Et puis, au-delà des bisbilles strictement nationales, nombre de journaux à l'instar du Temps font remarquer que les mesures unilatérales prises lundi par Berlin risquent de provoquer un effet domino en Europe. L'Allemagne prévoit en effet de renvoyer les requérants entrés illégalement dans son pays depuis l'Autriche, laquelle craint que des contrôles plus stricts ne fassent grimper le nombre de migrants sur son propre territoire. Et c'est ainsi que Vienne menace désormais de fermer ses frontières avec la Slovénie et l'Italie. Du coup, le ministre italien de l'Intérieur a précisé à son tour que son pays ne resterait pas les bras croisés. Si l'Autriche veut faire des contrôles, elle en a tout le droit et nous ferons la même chose, a-t-il prévenu, ou quand chacun tente de repousser le problème chez son voisin et ainsi de suite, probablement jusqu'au sable du Sahara où l'hécatombe de la migration se déroule loin des regards, se désole l'éditorialiste.
Enfin, direct sur la Thaïlande, Thomas Cluzel, où une histoire tient en haleine tout le pays.
Oui, une histoire absolument glaçante. Après 9 jours de recherche et alors que l'espoir de les retrouver vivants s'amenuisait, 12 enfants pris au piège dans une grotte sans nourriture et plongés dans l'obscurité totale ont été retrouvés sains et saufs. Âgés de 11 à 16 ans, les jeunes garçons accompagnés de leur entraîneur de football avaient été surpris par une montée des eaux due à la mousson. Hier, toutes les chaînes de télévision qui ont suivi l'affaire quasiment en temps réel ont donc diffusé les premières images des enfants retrouvés au visage maculé de boue. Les photos sont d'ailleurs à la une ce matin du quotidien de Melbourne, The Australian, mais aussi du South China Morning Post avec ce titre. Et maintenant, car après l'euphorie, une tâche redoutable désormais les attend, peut-on lire encore ce matin sur le site de la chaîne américaine NPR. Pour sortir, deux options seulement s'offrent à eux. soit attendre que les eaux qui ont inondé la grotte commencent enfin à reculer, ce qui avec la saison des pluies pourrait prendre plusieurs mois, soit apprendre à plonger pour sortir de la grotte. Sauf que la zone dans laquelle le groupe reste bloqué n'est accessible que par un canal étroit, inondé d'eau boueuse et long de 4 km, un parcours qu'un plongeur chevronné met 6 heures à effectuer. Alors pour l'heure, de la nourriture a pu être acheminée sur place. Des médecins ont rejoint les enfants et doivent évaluer à présent leur capacité à plonger. Il faut les entraîner. Voyons de quoi ils sont capables, a lancé hier le gouverneur de la province. Dans l'intervalle, les sauveteurs continuent de pomper le maximum d'eau de la grotte afin de faciliter au maximum leur sortie.
Merci Thomas Cluzel, chronique à réécouter ou à podcaster sur franceculture.fr.